France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et d'abord, ils sont 86 députés à publier une tribune dans le Figaro pour demander le retour de la taxe carbone. Élus de tous bords, principalement de la majorité et du centre, ils plaident pour une version juste et lisible de cette taxe carbone qui avait soulevé la colère des gilets jaunes, provoquant la hausse des prix des carburants l'an passé. Le député Mathieu Orphelin, récemment parti de La République En Marche, est l'un des signataires principaux de cette tribune. L'Assemblée nationale a adopté hier soir un article sur l'homoparentalité dans les formulaires scolaires. Ils devront désormais porter la mention « parent 1 » et « parent 2 » et non plus les mentions « père et mère ». L'amendement a été adopté dans le cadre de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance. Ce projet de loi-là est seulement présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Il s'agit du projet de loi santé, un texte qui doit être adopté d'ici l'été pour pouvoir réformer en priorité les études de santé et la carte hospitalière. Parmi les différentes mesures, il y a un label décerné à 500 ou 600 hôpitaux de proximité, des établissements qui seront recentrés sur la médecine générale, la gériatrie et la rééducation, sans chirurgie ni maternité. Le plan santé 2022 prévoit également la suppression du numerus clausus et du concours en fin de première année, concours pour les études de médecine. Dans l'actualité à l'international, soulignons cette fois cet espoir pour les Vénézuéliens. Juan Guaido, l'opposant vénézuélien, annonce que l'aide d'urgence envoyée par les États-Unis entrera dans le pays le 23 février prochain, dans 10 jours. Jusque-là, le président élu Nicolas Maduro s'y opposait. Dans le même temps, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a mis en garde son homologue américain Mike Pompeo contre tout recours à la force au Venezuela. Et puis, une nouvelle journée de tensions et de chaos a eu lieu hier en Haïti. Des centaines de personnes ont demandé le départ du président. Au moins 6 personnes sont mortes en une semaine. Et c'est dans ce contexte que 78 détenus d'une prison située sur la côte sud se sont évadés hier.
La musique fait son cinéma avec Nino Rota. Le Parrain, La Dolce Vita, Rocco et ses frères, Casanova, Le Guépard. Nino Rota est l'auteur des plus belles musiques de films. Interprété par l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Trafic Quintet, Sol Ray, Daniel Ivinec, Thomas de Pourquerie et bien d'autres. Les 23 et 24 février à Radio France. Réservation maisondelaradio.fr. À Radio France, la musique fait son cinéma.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03 et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et ce matin, on va parler d'Hollywood. Hollywood, son âge d'or, ses stars, son système impitoyable et sa face cachée racontée par deux documentaristes françaises. Les sœurs Julia et Clara Kupperberg ont une trentaine de films à leur actif, autour bien sûr de l'histoire du cinéma américain. Et là, dernièrement, un beau coffret réunissant 10 de leurs documentaires vient de sortir aux éditions Montparnasse. Il est absolument indispensable. Un peu d'histoire et beaucoup de glamour, ou plutôt le contraire, on est sur France Culture quand même, autour du cinéma américain, de sa naissance et de ses premières années. C'est au programme du Réveil Culturel. Réveil Culturel concocté avec Corinne Amar, ce matin à la technique Marie Le Peintre, une réalisation de Vincent Abouchard.
Le Réveil Culturel. Mercredi, cinéma.
Et c'est une passion pour vous, le cinéma américain. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Les sœurs Kupperberg. On vous appelle Julia et Clara ou bien les sœurs Kupperberg maintenant? Maintenant, depuis le temps que vous allez à Hollywood, parce que maintenant, ça y est, vous êtes connues à Hollywood.
On est connues à Hollywood. Maintenant, on pense même qu'on est américaine, ce qui est très rigolo alors qu'on est née en France et qu'on est française 100%. Et on nous appelle les sœurs Kupperberg.
Bon, ben voilà, ben je vais continuer à vous appeler comme ça. Donc, un coffret qui a pour titre « Il était une fois à Hollywood ». C'est votre passion parce que vous enquêtez sur ces premières années d'Hollywood. Alors, d'où vous est venue d'abord cette passion pour le cinéma américain et puis cette idée de faire l'histoire et de réunir les archives et d'essayer de raconter comment est née cette industrie du cinéma?
Alors, on est des passionnés de cinéma américain depuis toujours. On a été élevés dans le cinéma américain. C'était une passion familiale. Donc,
C'est-à-dire quoi? On allait au cinéma ou on regardait le ciné-club de France 3?
Exactement.
De FR3 à l'époque.
Ouais. FR3. Ouais. Voilà, on avait le droit de regarder, pas de se coucher. Et on regardait énormément de films, des VHS à l'époque. Et donc, voilà, on a baigné là-dedans. C'est une passion, voilà, qu'on a gardée. Et quand on a commencé à travailler dessus, en fait, un film en entraînant un autre, ce qui nous a passionnés, c'était de recontextualiser toujours le cinéma américain dans son histoire, donc dans son histoire politique ou sociologique. Donc d'avoir comme ça une toile de fond toujours sur la grande histoire racontée par le glamour américain.
Bon, on vient d'écouter Clara. Julia ?
Julia, alors, ce qui nous plaît énormément avec le cinéma américain, c'est que c'est pour nous le seul cinéma qui reflète autant la société américaine. C'est-à-dire que vous regardez un film, vous pouvez savoir quel président est à ce moment-là aux États-Unis, quel est le contexte social, quel est le contexte politique, comme disait Clara, de l'époque. Et c'est vrai que le cinéma français, asiatique, italien, c'est pas pareil. C'est pas autant le miroir que le cinéma américain l'est de sa propre culture.
Ou du moins le cinéma américain à ses débuts.
À ses débuts, tout à fait.
Dans ce coffret, Il était une fois Hollywood, vous parlez aussi bien du sexe, voilà, avec tout le code Ames et tout ça, vous allez nous l'expliquer, de la place des femmes. La guerre froide est très présente aussi dans un de vos documentaires, puisqu'il y a quelques comédiens, quelques stars, je peux le dire, qui ont joué un rôle très déterminant dans cette guerre. D'ailleurs, votre documentaire s'appelle Les Espions, qui venaient d'Hollywood. Vous mélangez le très sérieux, le très sociopolitique avec du glamour, et vous avez consacré un numéro à ces deux grandes commères d'Hollywood qui ne faisaient peut-être pas la carrière des stars, mais qui pouvaient les défaire. Je parle bien sûr de
qui? Hedda Hopper et Lou Larson.
Et Lou Larson. Et puis donc, La place de la femme. Le cas Ronald Reagan, parce que c'est quand même un comédien d'Hollywood, un produit d'Hollywood qui va devenir président. Vous parlez bien sûr de la censure, de Los Angeles, comment Los Angeles va devenir le cadre d'un cinéma noir. Orson Welles est très présent. Et vous avez quelqu'un qui vous aime bien et qui vous aide beaucoup, c'est Martin Scorsese. Comment vous l'avez rencontré ?
Martin Scorsese, en fait, la première fois qu'on l'a rencontré, on a fait un documentaire sur lui et la musique dans ses films, en fait. C'était le point de départ. Et puis on a sympathisé, c'est un fou de cinéma. Voilà, il est passionné de cinéma, de restauration et surtout de toujours transmettre quelque chose, transmettre un héritage, une culture, garder ça en mémoire quand même. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le sollicite, il répond présent. Donc on a de la chance.
Il nous a même ouvert son carnet d'adresses, je suppose.
Il nous a ouvert son carnet d'adresses. Il est passionné, enfin on a quand même beaucoup de sujets qui nous passionnent en commun, notamment Gene Tierney dans lequel il est, ou Orson Welles, voilà. Donc il a une générosité quand même immense, et puis il est merveilleux quoi quand il parle. C'est vrai, on est subjugué parce que il a un tel amour pour le cinéma et puis une telle excitation encore aujourd'hui pour en parler, que c'est magique quoi, avoir Martin Scorsese dans un doc, c'est génial quoi ça.
Alors ceux qui ont la télévision, ceux qui suivent les programmes d'Arte ou d'Orange ont peut-être vu vos films. Les autres comme moi vont les découvrir dans ce coffret, Julia et Clara Kupperberg. Alors ce que votre travail est très passionnant parce que c'est un travail d'archiviste. Il y a beaucoup d'archives que vous commentez, que vous remettez en contexte. Mais il y a aussi votre enquête, il y a aussi une enquête journalistique.
C'est vrai que ce qui nous importe, c'est de contextualiser. C'est très important. On ne veut pas faire des documentaires que sur le cinéma analytique ou sur une actrice ou un portrait, sans le resituer dans le contexte de l'époque. Parce que nous, ce qu'on adore, c'est l'histoire. Et on adore l'histoire américaine. On est fascinés par elle. Et on se sert parfois du cinéma pour parler de l'histoire.
Donc on peut trouver les archives. Est-ce que ça coûte cher d'ailleurs d'avoir les archives que vous avez eues pour vos films?
Oui, ça coûte cher. Les archives. Ouais, bon. Oui, ça coûte cher, ça se négocie, mais ça coûte cher, oui. Donc c'est un budget dans le film. C'est vrai que nous, on a un gros budget, parce qu'on aime beaucoup travailler avec des archives. On trouve que ça donne justement une force incroyable aux propos. Et donc voilà, c'est un budget qu'on impute à ça, mais en même temps...
En même temps, ça vaut le coup, parce que... Puis on n'est que deux, donc... Tout l'argent passe dans l'achat d'archives. C'était un choix qu'on a fait aussi avec Clara au début. On s'est dit, on travaille que toutes les deux, on fait tout. On produit, on réalise, on monte, on écrit. Et on met l'argent alloué à ces postes dans les archives et les achats d'archives.
Et après, à partir de ces archives, vous construisez vos histoires, vos films, vos documentaires.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que souvent les archives nous introduisent à une nouvelle idée, même à un nouveau film carrément. C'est vrai que par exemple,
ce ne sont pas des films de commande, hein.
Non, ce sont des idées qu'on a et qu'on propose. Et c'est vrai que souvent une archive va déclencher un film. C'est vrai que ça arrive souvent. Notamment dans Les Espions, en fait, à Hollywood, on a découvert des images incroyables, justement, du parti nazi qui avait pignon sur rue aux États-Unis jusqu'aux années 36. On a découvert aussi toute l'histoire sur les Japonais et les camps d'internement aux États-Unis. On est en train de finir un doc dessus. Donc, souvent, c'est vrai que le travail d'archives nous donne de nouvelles idées, en fait, de nouvelles pistes.
Et ce sont des documents déclassifiés. Par exemple, quand on apprend que des stars ont été surveillées par d'autres stars parce qu'elles étaient fortement soupçonnées de travailler pour l'ennemi. Tout ça, ce sont des documents du FBI, de la CIA que vous avez retrouvés?
Oui, c'est des documents qui ont été déclassifiés il y a quelques années maintenant. Et alors, ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est la naissance de l'OSS, qui était la première, qui est la CIA, en fait, aujourd'hui. Et on est avant Pearl Harbor. Les États-Unis n'ont pas d'agence d'espionnage, n'ont pas d'agence de renseignement. Il y a le FBI pour le fédéral, mais à l'international, il n'y a pas d'agence. Et il crée l'OSS. Et il décide, c'est pour ça qu'on est tombé amoureuse de ce sujet, d'engager des acteurs connus de l'époque, Cary Grant, Marlène Dietrich, Greta Garbo, pour partir espionner en Europe. Parce que eux pouvaient voyager.
Pas seulement en Europe. Cary Grant était un espion chargé de surveiller Errol Flynn.
Oui, Errol Flynn qui était suspecté d'être un sympathisant nazi. Et donc, Cary Grant avait comme mission de le surveiller. Et c'est très drôle parce que Cary Grant joue lui-même un espion la journée et le soir, espionner réellement dans sa vie réelle, Errol Flynn. Donc,
Ça, c'est vraiment consacré autour de la guerre froide. Hein. Peut-être qu'il y aura un autre numéro qui sera consacré à ce qui s'est passé après cette période, c'est-à-dire la liste noire. Mais il y a d'autres thématiques que vous développez, par exemple, le sexe à Hollywood.
Uncontrolled sexual behavior usually is a sign of an immature and insecure person.
Pourquoi une femme aujourd'hui est-elle encore en soutien-gorge quand elle fait l'amour dans beaucoup de films américains? Pourquoi la sexualité est-elle aussi taboue?
It's nice.
40 ans après la révolution sexuelle et l'émancipation des femmes.
In American movies, I think women often don't feel good about sex.
Your clitoris, it's deep down in the bottom of your throat.
So women are often punished on screen for sexual feelings or sexual activities.
Les femmes, le sexe et Hollywood. Un ménage à trois explosif, sulfureux et brûlant d'actualité.
Et c'est dans un des films qu'on trouve dans le coffret « Il était une fois Hollywood » des sœurs Clara et Julia Kupperberg, qui a pour titre « Hollywood, pas de sexe s'il vous plaît ». Qui vient-on d'entendre ?
On vient d'entendre en fait Linda Williams qui a écrit un livre sur la représentation du sexe dans le cinéma américain en fait. Et elle est partie de ce constat que un petit peu comme ce qu'on raconte dans le documentaire, que finalement la sexualité américaine est toujours un sujet tabou. Et qu'elle a beau s'exprimer à travers la violence, la révolution féministe et la révolution des années 70 n'a pas changé grand-chose.
Mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Le Code Hays est venu changer un cinéma qui était très libre et qui donnait la belle part aux femmes d'ailleurs.
Tout à fait. Ouais, ce qu'on appelle les films pré-code en fait, où alors là tout était permis. On pouvait voir Marlène Dietrich nager toute nue dans un lac.
Mae West
ou des mariages à trois. Enfin vraiment. Et puis là les ligues de vertu se sont affolés à Hollywood. On est au début des années 30, et le contexte social est difficile, il y a la dépression. Et Hollywood a pris une décision qui était quand même incroyable, c'est de s'auto-censurer. C'est pour pas tomber sous le coup d'une censure qui allait être gouvernementale, enfin fédérale, ils se sont dit on va engager un type, un lobbyiste, le sénateur Hays, et on va réguler tout ça et s'imposer un code de censure, et qui aura duré jusqu'en 66, officiellement.
Vous êtes aussi féministe parce que vous avez réalisé un film sur le rôle des femmes à Hollywood, un documentaire joliment titré « Et la femme créée à Hollywood », et c'est un inventaire de toutes ces femmes pionnières oubliées.
Mais oui, on ne connaissait pas, mais nous-mêmes, on ne connaissait pas. On a fait des études de cinéma, on a fait 30 docs sur le cinéma américain, et on a découvert ces femmes et cette histoire qu'Hollywood a été créé au début du siècle par des femmes.
Que le premier film parlant a été fait par une femme, Alice Guy.
Oui, Alice Guy qui était française, par ailleurs, et qui était la secrétaire de Gaumont, et c'est la première femme, mais première être humain, j'ai envie de dire, à avoir réalisé un film tout court narratif. Parce qu'avant, c'était des scènes de vie ou comme comme les la sortie de l'usine, par exemple, des Frères Lumière, mais c'était pas, il y avait pas de narration. Et Alice Guy Blaché est la première à faire un film narratif. Et elle a été oubliée, effacée de l'histoire.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Comme dans un film de la métro, on voit très bien tous les détails. Les bonnes sœurs font leur numéro dans un voilier sans gouvernail. Des milliardaires américains s'en vont doucement vers le port avec des copains saoudiens qui vont très bien dans le décor. Comme dans un film de la métro, le soleil se couche sur l'eau sous l'œil des serveurs chicanos qui se marrent avec les cuistots. Des stars adorées du public traînent leur spleen intéressant vers des paradis super chics où l'on dégueule entre gagnants. Comme dans un film de la métro, les marins se perdent et se damnent pour des pin-ups assez salauds avec des yeux couleur butane. Quelques tarzans dénaturés jettent leurs cigares allumés pour mieux explorer le point G des petites jeans. Allez, allez! Comme dans un film de la métro.
10 films, 10 documentaires, 5 DVD, un coffret. Il était une fois Hollywood par les sœurs Clara et Julia Kupperberg vient de sortir aux éditions Montparnasse. Vous qui écrivez l'histoire du cinéma américain, vous êtes devenu même des références aux États-Unis puisque vous racontez que qu'aujourd'hui quand vous allez aux États-Unis, c'est vous-même qui apprenez plein de choses aux Américains sur l'histoire de cette grosse industrie qu'est Hollywood. Et parmi les films qu'on peut voir, parmi ces documentaires que vous avez réalisés et qu'on peut voir, un est consacré à Ronald Reagan. Alors, on se dit, oui, c'est vrai que Ronald Reagan a profité d'Hollywood pour se faire connaître jusqu'à devenir le 40e président des États-Unis. Vous rajoutez une information de taille. Passer par Hollywood, c'est bien, mais avoir des contacts avec la mafia, c'est mieux pour arriver à la Maison Blanche. C'est incroyable, ce documentaire que vous avez réalisé.
C'est une histoire incroyable parce que ici, on part du constat que Ronald Reagan était un président, enfin un abruti, en gros, un acteur de série B qui est devenu un petit peu président par hasard. Quand même, c'est l'image qu'on en a. Et en fait, c'est un type très brillant. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'était un type très brillant qui devient un acteur effectivement de série B, mais qui se laisse prendre en main par le plus grand agent d'Hollywood à l'époque qui s'appelle Lou Wasserman.
Pourquoi ? Parce qu'il est syndicaliste ? Parce que déjà, il se fait remarquer en tant que syndicaliste au milieu de cette usine à rêve ?
Oui, alors il devient vite d'ailleurs président du syndicat des acteurs, qui est le syndicat le plus puissant d'Hollywood. Il y fait la plus grosse arnaque de l'histoire d'Hollywood.
C'est-à-dire, racontez-nous, vous, dans
fait,
le film, oui.
Il vole tous les acteurs de leurs droits télévisuels. Donc voilà, en leur prétextant que l'industrie va mal, qu'il faut céder, etc. Mais tout ceci, en fait, au profit de son agent, de l'agence artistique de son agent, qui obtient ainsi une espèce de monopole, en fait, sur tout le marché et sur tout le business. Donc, c'était totalement illégal à l'époque. Mais donc tout le monde s'enrichit, lui devient millionnaire et en fait il se fait élire comme ça petit à petit au syndicat des acteurs d'Hollywood et puis c'est la première étape pour devenir gouverneur de Californie. Et en fait ces hommes-là qui sont dans l'ombre, notamment Sidney Korshak, qui était l'avocat aussi bien de son agent que de Ronald Reagan, est connu pour être l'avocat de la mafia. En fait, il était le go-between entre la mafia de Chicago et Hollywood.
Voilà, quand les gens avaient les yeux braqués sur Frank Sinatra et ses relations avec le milieu, en fait, compte, c'était Ronald Reagan, le vrai représentant de la mafia qui arrive jusqu'à la tête de la présidence des États-Unis.
Bien sûr, et bien plus important que Sinatra, qui était comme ça. On l'appelait le valet de la mafia, Sinatra. Il aimait bien avoir des relations un petit peu sulfureuses. Mais il n'a jamais eu un rôle important, finalement. Alors que Reagan, il est quand même devenu président.
C'est beaucoup d'enquêtes pour arriver à réaliser ces films. Alors, il y a bien sûr, vous l'avez raconté en début d'émission, toute cette partie où vous allez à la pêche aux archives, hein, c'est-à-dire récupérer des images parce que vous faites des films, donc récupérer le maximum d'archives, négocier les droits, et puis ensuite, est-ce qu'il y a de l'enquête journalistique, de l'investigation ?
Oui. Oui, beaucoup. C'est vrai, en plus, on connaît maintenant, on a rencontré beaucoup de journalistes qui ont fait les investigations à notre place et qui nous disent souvent, mais vous avez énormément de chance d'être encore vivante. Vous vous attaquez à des sujets qui sont aux États-Unis plus que tabous. Dire qu'un de leurs présidents a été élu par la mafia. On a fait un documentaire sur l'avocat de la mafia, sur la mafia qui a infiltré les studios à Hollywood. Et c'est vrai que, les enquêtes durent entre 6 mois et 1 an pour chaque documentaire avant de partir le tourner.
Donc de temps en temps, vous vous permettez des sujets un peu plus légers, mais qui sont tout aussi emblématiques, par exemple autour de Luella Parson et Ada Hopper, qui étaient vraiment les deux vipères d'Hollywood. C'était des chroniqueuses pour de la presse People. Elles pouvaient vraiment faire du mal à qui ne leur plaisait pas, on peut le dire.
Ah ben carrément, elles ont détruit des carrières. Hein. Mm-hmm. Et puis elles ont quand même poussé Chaplin à s'exiler. Enfin, elles étaient coriaces. Hein. Alors il y a eu en premier Luella Parson. T'es une petite bonne femme, comme ça, bon, pas trop méchante, pas très sympa, mais bon.
On pouvait négocier avec elle.
Voilà, bon, quand même. Mais et puis, c'est Louis B. Mayer, quand même, le patron de la MGM, qui en avait marre qu'elle ait le monopole, en fait, du ragot à Hollywood, et qui s'est dit, il lui faut une concurrente. Donc, il a fait venir une ancienne actrice, parce qu'au départ, elle était actrice, Ada Hopper.
Avec toute la rancœur que peut avoir une femme qui aurait aimé être actrice et qui n'a pas pu.
Qui était une actrice ratée.
Voilà, arriver à c'est assez fin. Elles vont être aussi utilisées par le système hollywoodien, bien sûr. C'est de gossip.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le système se nourrissait d'elles parce que leur transmettait aussi les informations, notamment les studios, que les studios avaient envie de faire sortir et puis se servaient d'elles pour pousser les carrières qui étaient un peu défaillantes ou pour détruire les carrières qui étaient gênantes aussi ou pour étouffer des histoires aussi dérangeantes.
Elles acceptaient
quand elles avaient autre chose en retour, en fait.
C'est pour ça qu'elles ont épargné Rock Hudson et surtout son homosexualité qui était connue, mais bon, là, les studios ont tout fait pour faire taire. Ils ont même négocié quand même, ils ont donné d'autres informations.
Ah ben, on s'asmonnayait, oui.
Ah, s'asmonnayait.
C'est ça. Je te détruis un tel, mais tu me sauves l'autre.
Bon, et puis, vous vous êtes intéressé aussi à Orson Welles, dans un film qui s'appelle « This is Orson Welles ».
Orson Welles, bah, le monstre, hein, le monstre sacré du cinéma. Alors là, c'est avec l'aide de Martin Scorsese, pour le coup, ouais, qui est un énorme fan. Et lui nous a énormément aidé pour le film. Et
il vous a donné le contact de Peter Bogdanovich, de la fille Welles.
Oui, il nous a introduit.
Ouais, parce qu'ils sont tous présents et c'est vrai que leurs témoignages sont très éclairants. Ouais.
Oui, et alors on voulait faire un documentaire sur Orson Welles, c'est vrai, sur son cinéma, mais surtout sur l'homme. Et donc on a acheté une interview de lui où il est super touchant. Et non seulement vous aimez ses films, mais vous tombez vraiment sous le charme de l'homme. Et il est très très émouvant. Et ce film a été à Cannes, il a été sélectionné à la section Cannes classique, et ça nous a beaucoup aidé. Et c'est un film qu'on aime beaucoup, on est très touchés par ce film, parce que c'est un de nos premiers succès. Et Orson Welles, je vous disais, c'est intouchable, et très peu connu aux États-Unis malheureusement.
Alors, est-ce que vous avez une méthode de travail ? Qui fait quoi dans ce duo de sœurs, Julia et Clara Kupperberg ?
Qui fait quoi? On se pose encore la question, je crois. Ça dépend des jours, de comment on est luné.
L'humeur de l'humour.
Je dirais qu'on fait tout à quatre mains. On fait tout. On trouve les sujets, on les écrit. On part les tourner, on les vend aux chaînes. On se bat parfois un peu pour eux parce qu'il y a certains sujets qui sont plus ou moins populaires.
Quel est le sujet qui a été plus ou moins refusé ou que vous avez eu du mal à imposer, par exemple?
C'est étonnant, mais c'est celui sur les pionnières, les femmes. Les femmes au début du siècle qui ont créé Hollywood parce que personne ne nous croyait. Parce qu'il n'existait rien. On est en 2015, 2014 quand on commence les recherches. Et là, aujourd'hui, il y a plein de choses sur ces femmes. Parce que plein de gens ont sorti des livres avec le mouvement MeToo notamment. C'est sorti. Mais nous, à l'époque, c'était complètement méconnu et les gens nous traitaient de mythomanes. Et on a eu beaucoup de mal à trouver des gens pour témoigner. Et il a été très difficile.
D'ailleurs, il n'y a pas un homme dans le documentaire.
Ouais.
Que vraiment,
oui, bien sûr.
Ils n'ont pas voulu participer. Pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce qu'on se faisait traiter de mytho, oui.
C'était très dur de oui, parce qu'il y avait tous les cinéphiles qui se sont sentis attaqués, parce que ces femmes ont été vraiment effacées de l'histoire du cinéma dans les années 40, parce que l'histoire a été écrite par les hommes, l'histoire du cinéma a été écrite par les hommes dans les années 40. Nous, on n'y est pour rien, mais c'est... Et donc, c'est vrai que ces femmes n'apparaissent nulle part.
Est-ce que votre écriture de documentariste s'inspire de ce que vous avez vu ou d'un auteur? Je vous parlais juste avant l'émission de cette série culte des années 80, cinéma. Est-ce que ça comptait pour vous? Est-ce que vous avez beaucoup réfléchi sur l'approche que vous alliez développer tout le long de ces films que vous avez réalisés, une trentaine autour du cinéma hollywoodien?
On retrouve un petit peu toujours le même style, j'ai envie de dire. Et en fait, il est essentiel pour nous que ce soit des sujets, même s'ils sont super pointus, qui soient accessibles à tout le monde, et pas qu'aux cinéphiles. Voilà. Donc parfois, ça plaît pas aux cinéphiles, justement, mais nous, on veut surtout pas faire des documentaires pour cinéphiles, et pour... L'idée, c'est que les gens qui regardent ces documentaires, ils n'y connaissent rien, et qu'à la fin de ces 52 minutes, ils aient envie d'en connaître plus, et surtout d'aller voir les films dont on parle. Voilà. Et donc nous, on est vraiment obsédés par le rythme, par justement que...
Par les voix off.
Les voix off, oui. Qu'il n'y ait pas de temps mort, que ce soit accrocheur sans que ce soit non plus racoleur, c'est pas la même chose, mais que ce soit toujours... que le spectateur soit tenu en haleine et que voilà, qu'il ne s'ennuie jamais, en fait.
Oui, c'est le mot d'ordre, hein. C'est notre obsession d'ailleurs pendant le montage, est-ce qu'on s'ennuie? Alors toutes les 5 minutes, on se pose la question, est-ce qu'on s'ennuie? Mais c'est super important parce qu'effectivement, on se fait taxer souvent, on nous dit qu'on est classique dans notre approche, et nous on prend ça comme un compliment parce qu'il n'y a rien de plus dur que de faire du classique attrayant. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire.
Alors, vous êtes en train de travailler sur Hollywood, là, par exemple, sur un autre sujet?
On en fait 3, là, en ce moment.
Oula. Ouais. Ah oui, c'est ce que vous m'aviez dit. Quand vous allez aux États-Unis, vous en profitez pour tourner pour plusieurs numéros.
C'est ça, on en fait 2 ou 3, et puis on rapporte le matériel, et puis on se met en montage pendant plusieurs mois. Mais voilà, ça permet d'optimiser le temps de tournage.
Alors, c'est toujours une économie. Qu'avez-vous ramené de votre dernier voyage en Amérique?
C'est une bonne fournée, en plus, celle-ci. Oui. Alors, Max Factor, qui c'est? C'était le maquilleur des stars. C'est le héros des stars. Il se faisait appeler comme ça. C'est lui qui prenait Judy Garland, qui était un vilain petit canard et qui a fait d'elle une sublime rousse. C'est le blonde platine de Marilyn. C'est les sourcils de Marlène Dietrich. C'est la bouche de Clara Bow.
Deuxième sujet,
Gary Cooper, un portrait sur lui. Alors là, pareil, on adore tous Gary Cooper, mais là, on a trouvé l'interview de lui où il est sublime. Alors, non seulement il est beau, mais en plus, il est émouvant. C'était quelqu'un de très touchant, très timide, mais très touchant. Et le troisième,
c'est sur les Japonais.
Ouais. Vas-y.
Alors, ça, c'est on a fait le documentaire sur les espions et on est tombé sur les images des camps d'internement japonais, sur la côte ouest américaine. Et on est parti de ce point de départ et on s'est dit c'est incroyable parce que cette histoire est taboue aux États-Unis. 110 000 Japonais ont été internés dans des camps à ce moment-là.
On avait les photos de Dorothea Lange.
Absolument, en jeu de paume. Ouais. Tout à fait.
Et vous avez trouvé des documents filmés?
Voilà, c'est ça, des archives des camps, des cars qui emmènent les Japonais, enfin des images incroyables. Et on s'est dit, il faut faire un documentaire là-dessus. Et on le fait par le prisme du cinéma, montrer comment Hollywood, qui est toujours quand même un médium de propagande, s'est servi aussi des films et que la figure du Japonais a évolué, que ce soit pendant la guerre, donc juste après Pearl Harbor, pour convaincre aussi l'opinion publique, et comment il a fallu switcher cette image en une image de Japonais sympathique en 1947 avec la guerre froide, où il fallait que le Japon redevienne l'allié des États-Unis.
Incroyable. On attend ça avec impatience. Mais en attendant, il y a ce coffret. Il était une fois Hollywood. Merci beaucoup, Clara et Julia Kuperberg, d'être passées ce matin nous en parler.
Merci à vous.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Benjamin Verdonck au Théâtre de la Bastille. Artiste protéiforme, auteur, plasticien, homme de théâtre et manipulateur d'objets, l'artiste flamand présente 4 spectacles tout public.
Des bulles fantaisistes, légères et aériennes, comme les mobiles de Calder. Une manière pour cet homme orchestre de donner corps à une pensée qui s'interroge sur notre modèle occidental. Benjamin Verdonck, du 13 au 17 février au Théâtre de la Bastille à Paris. Un partenariat France Culture. Place de la République, saison 2, Sonia Kronlund.
Place de la République, c'est la façon dont la République fonctionne ou pas dans trois institutions, trois services publics emblématiques. Place de la République, saison 2, c'est dans un commissariat à Auxerre, un hôpital à Amiens et une mairie à Marseille.
J'habite tout seul dans un appartement. Là, je suis hospitalisée, j'ai personne, je suis dans la misère.
Place de la République, chaque mercredi dans Les Pieds sur Terre à 13h30 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'ancien boxeur gilet jaune face à la justice, Christophe Détinger, comparaît aujourd'hui à Paris pour avoir violemment frappé deux gendarmes, c'était début janvier. Un procès ce mercredi quand dans le même temps les représentants de commerçants seront reçus à Bercy pour évoquer les conséquences économiques des manifestations gilets jaunes. Nous y reviendrons en détail dans un instant. Dans ce journal, nous irons aussi à New York où le célèbre narcotrafiquant mexicain El Chapo a été déclaré coupable par un jury. Il encourt la perpétuité. Et puis nous irons au Maroc où trois Français ont été arrêtés, soupçonnés de terrorisme. L'enquête, vous le comprendrez, est assez vaste. Près de 1800 condamnations de gilets jaunes depuis le début du mouvement. Le chiffre a été donné hier par le Premier ministre Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale. 1796 condamnations très exactement et, précise-t-il, 1422 personnes qui sont encore en attente de jugement. Tout cela alors que sera aujourd'hui très médiatisé le procès de Christophe Détinger, ancien champion de France de boxe. Il s'en était pris à des gendarmes le 5 janvier à Paris sur une passerelle près des Tuileries. Deux gendarmes avaient eu 2 et 15 jours d'ITT. L'agresseur s'était rendu deux jours plus tard et il a dit regretter son geste, Sarah Guibaudeau.
Avant de se rendre, Christophe Détinger s'était justifié dans une vidéo mise en ligne.
Je ne suis pas d'extrême gauche, je ne suis pas d'extrême droite. Je suis un Français, je me suis fait gazer et à un moment la colère est montée en moi et oui, j'ai mal réagi.
Le tribunal va surtout revoir les vidéos de la passerelle et les interprétations diffèrent. Thibaut de Montbrial, avocat des deux gendarmes blessés, y voit un agresseur déterminé.
Ce qu'a fait M. Détinger avec une violence déterminée, une véritable montée à l'assaut, puis en donnant des coups de pied dans la tête au sol à un gendarme, en plus en l'assumant, certes en présentant des formes d'excuses, mais au nom du mouvement social, c'est une véritable incitation à augmenter encore la violence.
Pour sa défense, il faut comprendre comment ce fonctionnaire municipal apprécié, père de trois enfants sans casier, s'est retrouvé à porter ses coups sans penser à l'impact des images. Maître Hugues Vigier.
Ça aboutit à ce qu'il devienne, mais à son corps défendant, l'emblème des gilets jaunes peut-être, et puis d'une forme de résistance à ce que certains vivent comme une utilisation de la violence déplacée, excessive. Tout en reconnaissant, il le dit et il le dira encore, que ce qu'il a fait, pour une grande partie, n'est pas acceptable.
Le contexte est moins tendu qu'en janvier, mais Christophe Détinger risque en théorie jusqu'à 7 ans de prison.
Christophe Détinger qui a donc participé aux violences lors de mobilisations de gilets jaunes. Ces manifestations depuis la mi-novembre ont causé de nombreuses dégradations et un manque d'activité pour les commerçants. Hier, la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, évoquait une catastrophe et le chiffre de 70 000 personnes en activité partielle. Ce mercredi, élus et professionnels seront donc reçus par le gouvernement. L'idée, Catherine Pétillon, est de rassurer les commerçants.
Cet après-midi, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher recevra les associations et fédérations nationales de commerçants et d'artisans. Une rencontre destinée à évaluer l'impact économique du mouvement des Gilets jaunes et l'effet des mesures en réponse déjà proposées par le gouvernement. Des élus de collectivités seront, eux, reçus plus tôt dans la matinée par le ministre Bruno Le Maire. L'association France Urbaine, qui réunit métropoles et grandes villes, avait demandé ce week-end une réunion d'urgence avec l'exécutif. Elle estime que c'est en millions d'euros que se chiffre l'impact du mouvement sur les contribuables, en raison de la dégradation de biens publics et de la mobilisation des services de la ville, ainsi que sur les commerces via des pertes de recettes et d'emplois. L'association cite comme particulièrement touchées les villes de Rouen, Rennes, Bordeaux ou encore Dijon. Les commerçants de plusieurs grandes villes avaient envoyé le même type de courrier à Bruno Le Maire. Ce dernier a annoncé dès novembre des mesures à destination des entreprises affectées par le mouvement des Gilets jaunes, comme l'étalement d'échéances sociales, des remboursements accélérés des crédits d'impôt ou encore la possibilité de demander le chômage partiel. Fin janvier, plus de 4500 entreprises avaient demandé à bénéficier de ce dispositif. Cela représente 66 000 salariés pour 36 millions d'euros de soutien. Toutes ces aides restent insuffisamment demandées, estime Bercy. De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe a promis il y a quelques jours une enveloppe d'environ 3 millions d'euros pour soutenir des actions collectives ou des animations commerciales dans les villes les plus touchées.
Le gouvernement qui avait promis aussi de suspendre la taxe carbone cette année, c'est chose faite. Mais qu'en sera-t-il l'année prochaine? L'idée est de retour par le biais d'une tribune signée par 86 députés de divers bords, principalement de la majorité. Dans les colonnes du Figaro, il plaide pour une fiscalité carbone à la fois lisible et juste socialement. Et puis en bref encore, notons cet amendement adopté hier à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi pour une école de la confiance. Le texte consacre l'homoparentalité dans les formulaires scolaires. Ils devront porter les mentions parent 1 et parent 2 et non plus père et mère. Joaquin Guzman, appelé El Chapo, a été jugé coupable hier. Coupable d'avoir co-dirigé un puissant cartel de drogue, d'avoir exporté des centaines de tonnes de cocaïne aux États-Unis et ce pendant 25 ans. Il y a au total 10 chefs d'accusation. Le célèbre narcotrafiquant mexicain est jugé à New York. Un permis, Loïc Loury, qui a permis comme jamais de lever le rideau sur le trafic international de drogue.
Des cascades de pots de vin et des assassinats en série, voilà les deux piliers du cartel de Sinaloa, le prix à payer pour faire passer en 25 ans 150 tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Au cours du procès, une soixantaine de témoins ont raconté les coulisses de ce trafic et notamment la corruption. 300 000 dollars distribués chaque mois pour la seule ville de Mexico. L'argent arrosait le ministère de la Justice, la police des transports, jusqu'à l'organisation Interpol. L'ex-président Enrique Peña Nieto lui a toujours nié avoir reçu la moindre enveloppe. Derrière les magouilles, il y avait aussi la guerre fratricide entre cartels, les règlements de compte, comme en 93, 6 morts dans une discothèque de Puerto Vallarta. El Chapo lui n'hésite pas à torturer, à assassiner lui-même ses rivaux, raconte l'un des témoins, et mène grand train au sommet de la pyramide. Avec la chute de Guzman, l'édifice ne s'écroule pas pour autant. Le co-dirigeant du cartel, Ismael Mayo Zambada, est toujours en fuite. La guerre de la drogue au Mexique, elle continue de faire chaque année des milliers de victimes.
El Chapo pourrait écoper d'une peine de prison à perpétuité. 12 dirigeants indépendantistes catalans sont sur le banc des accusés depuis hier. Leur procès s'est ouvert à Madrid, un an et demi après l'organisation d'un référendum d'autodétermination jugé illégal par le pouvoir espagnol. Les indépendantistes qui, au niveau de la politique intérieure, empêchent actuellement le gouvernement d'avoir un budget. Le socialiste Pedro Sanchez pourrait être contraint aujourd'hui d'annoncer des élections anticipées. Aucun vol ne sera autorisé au départ ou à l'arrivée de la Belgique aujourd'hui, conséquence d'un appel à la grève générale dans le pays, appel suivi par au moins les aiguilleurs du ciel. Les trois grands syndicats du pays réclament une hausse des salaires, des allocations et des pensions, entre autres. Trois Français ont été arrêtés au Maroc pour leur implication présumée dans le financement du terrorisme, nous l'avons appris hier, ils sont toujours en garde à vue. Et actuellement la police recherche encore d'éventuels complices, Sarah Doublier.
Comme à leur habitude, les services de police n'ont pas donné beaucoup de détails quant à la localisation et aux circonstances de l'arrestation. Selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale marocaine, les enquêtes menées ont révélé que les suspects avaient tissé, je cite, « des liens étroits avec des combattants de Daesh en Irak et en Syrie ». Les investigations en cours doivent également déterminer d'éventuelles ramifications des suspects du Maroc vers l'étranger. Cette annonce intervient moins de deux mois après l'assassinat de deux touristes scandinaves dans la région montagneuse d'Imlil en décembre dernier. Assassinat revendiqué par Daesh, qui avait abouti à l'arrestation d'une vingtaine de personnes. Le royaume chérifien, soucieux de ne pas susciter la panique après une saison touristique ternie par ce drame, redouble d'efforts dans sa lutte déjà active en matière antiterroriste. Épaulé par un arsenal juridique particulièrement ferme, ses activités de renseignement ont démantelé depuis 4 ans la création du BCIJ, également surnommé le FBI marocain. pas moins de 57 réseaux terroristes sur son sol.
Sarah Doublier, correspondante de RFI à Casablanca pour France Culture. Revenons à présent sur la liste de mise à pied de journalistes. Elle s'allonge après les révélations de cyberharcèlement. Au moins 5 membres d'un groupe Facebook, la Ligue du LOL, 5 membres de ce groupe ont été écartés par leur rédaction ces derniers jours. Le groupe, constitué en grande partie d'hommes, est l'illustration d'une stratégie de conservation du pouvoir et de domination. Voilà ce qu'estime la chercheuse à l'Université de Genève, Isabelle Collet.
Je pense que ce qui est propre à cette profession, c'est d'une part le fonctionnement très fort par cooptation et la précarité d'un certain nombre d'emplois qui, d'un côté, empêchent une certaine protection par le droit du travail et, d'autre part, obligent à faire partie des bons cercles, des bons endroits pour pouvoir avoir une place. Ce qui explique aussi l'attraction qu'a créé ce groupe de personnes et qui ont attiré autant de suivants. Parce que c'est une bonne façon de penser que l'on est du côté des dominants, c'est d'avoir désigné des dominés en commun. D'une part, ça nous protège et d'autre part, ça donne le sentiment qu'on est du bon côté.
Vous parlez des dominants et pourtant vous dites qu'ils se sentent menacés. C'est presque paradoxal.
C'est presque paradoxal, mais pour autant, quand on voit par exemple les progrès que font les droits des femmes, les hommes ont toujours perçu cela comme une menace parce qu'en fait, ce que les dominants perçoivent comme des privilèges, les personnes qui les détiennent pensent que c'est juste normal.
La chercheuse Isabelle Collet qui répondait à Maxime Fayol, invité du journal de 22h hier sur France Culture. La météo en France métropolitaine, elle est assez simple. Ce mercredi, du soleil pour tout le monde. Comptez ce matin 2 degrés à Strasbourg, Lille et Lyon, 3 degrés à Paris, 11 à Marseille. 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous nous rejoignez pour le Journal des Idées. Et cette question ce matin, le grand débat national parviendra-t-il à la fois à exprimer une parole cohérente et à faire émerger la figure du peuple dans toute sa diversité? Difficile, Jacques, d'échapper à cette actualité, même dans les pages idées.
Eh oui. Alors, je cite. « Je suis né peuple, j'avais le peuple dans le cœur. Mais sa langue, elle m'était inaccessible, je n'ai pas pu le faire parler. » C'est Michelet qui s'exprime ainsi, non pas dans le peuple, mais dans nos fils. Et l'aveu d'impuissance a de quoi étonner de la part de celui qui s'employa pourtant à le représenter dans l'histoire. C'est que le peuple est une entité à géométrie variable, même s'il semble doué d'une remarquable permanence à travers les siècles. Le petit peuple de Rome, le peuple de Paris, le peuple invisible des Algonquins du Canada, le peuple de gauche. On pourrait multiplier les expressions qui se réfèrent ainsi à une réalité immuable, doté d'un puissant caractère assertif, une réalité immuable donc qui s'impose sans condition, si bien que lorsqu'on cherche à le définir, on tombe le plus souvent sur ce que Pierre Rosanvallon appelait à propos de la représentation démocratique le peuple introuvable. De fait, c'est aussi sa plasticité qui en fait un terme mobilisable en tous sens dans le champ politique, ce qu'Alain Badiou appelait sa dangereuse inertie, alors que populaire semble plus connoté comme dans mouvement populaire, tribunal populaire, front populaire ou populo. Là, l'adjectif induit des valeurs en tension qui ont pour effet de politiser le substantif et le philosophe suggérait qu'aux marges du bon peuple, le nouveau peuple qui se forme dans l'absence totale de visibilité, la clandestinité des sans-papiers ou les ghettos de la République sache lui arracher le mot peuple en tant que mot politique. Pierre Bourdieu, dans un article des actes de la recherche en sciences sociales, était plus réservé quant à la langue. Lorsqu'on adjoint le qualificatif de populaire, je cite, le lexique dit populaire n'est autre chose que l'ensemble des mots qui sont exclus des dictionnaires de la langue légitime ou qui n'y apparaissent qu'affectés de marques d'usage négatives comme familier. Dans Le Monde, Lucie Soulier et Abel Mestre analysent l'inflation actuelle du mot peuple dans le vocabulaire politique de l'extrême droite à l'extrême gauche au risque d'affaiblir son pouvoir de subversion. Le populisme qui s'en réclame n'est en effet ni un programme, ni un régime, mais une stratégie s'adossant à un style plébéien, une nouvelle grammaire politique qui consiste à établir une frontière entre ceux d'en bas et ceux d'en haut, et à tenter de capter les énergies collectives que suggère le mot. Au fond, relève-t-il, la nouveauté se situe surtout à gauche, où l'on s'est longtemps méfié du manichéisme populiste et de son son aspect interclassiste, assez loin des analyses marxistes classiques. Alors, Emmanuel Macron revendique la référence, on se souvient entre autres de sa sortie face aux maires réunis à l'Élysée en novembre 2018, nous sommes de vrais populistes, nous sommes avec le peuple. C'est peut-être là que réside un clivage, comme le souligne Chantal Mouffe, celui qui oppose au néolibéralisme autant qu'au nationalisme autoritaire le projet d'une radicalisation de la démocratie. Le grand débat en cours peut-il en constituer un moment fondateur ? Dans l'hebdomadaire Le 1, qui est consacré à la question, Vincent Martini observe que, contrairement au défouloir anonyme des réseaux sociaux, ils permettent une confrontation physique à l'occasion de laquelle les citoyens peuvent exprimer sur la place publique leur refus d'une société individualiste et morcelée. Et il rappelle d'ailleurs certains traits marquants de la culture politique française, le goût de la discussion et de la polémique, une appétence pour la chose publique et un sens profond de la justice sociale qui tranche avec l'apathie démocratique qui est trop souvent la norme dans les pays développés. Au-delà des interrogations sur les modalités de prise en compte de cette parole, le problème posé par le grand débat vient de ce que, selon le politologue, sans intermédiaire ni contre-pouvoir, un dialogue direct est instauré entre les revendications populaires et le pouvoir, une relation verticale qui expose les divisions citoyennes face à un pouvoir uni, donnant l'avantage au second sur le premier. Dans Le Figaro, en page Champ Libre, Rana Lévy pose la question « D'où vient qu'en France, les mouvements sociaux prennent plus qu'ailleurs la tournure d'une révolution ? C'est qu'ils ressuscitent à chaque épisode un vieux fantôme de nos guerres civiles, le conflit tumultueux entre l'égalité politique et légitimité révolutionnaire. » L'historien spécialiste de l'Ancien Régime et de la Révolution rappelle chez les Jacobins l'appropriation rhétorique de la figure du peuple, un sacerdoce dose de vertu érigée en instrument d'épuration, et il redoute que le débat national qui libère aujourd'hui la parole et apaise quelque peu les esprits ne constitue qu'un palliatif et non un remède, tout en estimant que la démocratie participative vaut toujours mieux qu'un embrasement de notre impétuosité révolutionnaire. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au programme aujourd'hui, une question, gouverner l'Espagne, est-ce un parcours piégé pour Pedro Sanchez?
Oui, en tout cas le Premier ministre socialiste espagnol est sous haute pression entre les manifestations de la droite qui lui reproche son rapprochement avec les indépendantistes, l'accuse de trahison et un vote sur le budget socialiste crucial aujourd'hui, 7 mois après la chute des conservateurs. Pedro Sanchez a-t-il déjà épuisé toutes ses cartes? On voit ça avec vous, Barbara Loyer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu, politologue, spécialiste de l'Espagne, enseignante en géopolitique à l'université Paris 8. Et puis d'abord, puisque c'est l'actualité, ce procès des indépendantistes pour rébellion et sédition ouvert hier à Madrid. Carles Puigdemont, qui lui est en Belgique, parle de mascarade, un test de résistance aussi pour la démocratie espagnole. Est-ce qu'il y a une chance qu'il se déroule sans politisation excessive ?
C'est difficile de faire plus politisé que ça ne l'est maintenant. Donc on est au contraire dans quelque chose qui est fondamentalement, je dirais, politique en Espagne. C'est-à-dire que c'est la première fois maintenant depuis la transition que la question du rapport entre l'État et la nation espagnole est posée de manière aussi forte et centrale. Jusque-là, la question de l'unité de la nation espagnole était une sorte de problème qu'on mettait prudemment sous le tapis, et puis on s'accordait comme on pouvait avec des nationalistes régionaux, tout en combattant contre le terrorisme qui était finalement le problème principal. Il se trouve que paradoxalement, cette crise catalane, je ne sais pas si c'est un paradoxe, elle éclate au moment où le TA termine sa course meurtrière, et du coup, ça repose la question de la nation espagnole, mais d'une manière un petit peu différente.
Et alors justement, pour poser la question dans l'autre sens, est-ce que ce procès a une possibilité d'offrir une issue à cette crise politique et constitutionnelle de la République espagnole ?
Non, il n'y aura pas d'issue à la fin du procès. D'abord, je ne sais pas ce qu'il y aura à la fin du procès, puisque je ne sais pas ce que décideront les juges et je pense qu'ils ne le savent pas encore eux-mêmes. Et de toute manière, quelles que soient les décisions, qui seront différentes pour chacun des prévenus, La question existentielle de l'Espagne, elle est maintenant posée pour de longues années. Le panorama politique est bouleversé par le défi des indépendantistes catalans. Il est bouleversé en Espagne et il est bouleversé à l'intérieur de la Catalogne et il est bouleversé à l'intérieur du Parti Socialiste et de la gauche en général.
Et est-ce qu'il y a, du coup, il y a une chance que ce procès soit autre chose qu'une tribune politique et de
Ça sera une tribune politique, c'est déjà une tribune politique et c'est aussi une tribune, on va dire, de la démocratie espagnole, de l'état démocratique, de l'état de droit espagnol vis-à-vis des institutions européennes et des états européens, parce que c'est la raison pour laquelle le procès il est diffusé en ligne, en direct, dans son intégralité. Les juges ont refusé qu'il y ait des représentants internationaux qui viendraient vérifier que l'Espagne est un état de droit protégeant comme il se doit les droits des accusés. L'idée, c'est que tout le monde puisse voir, observer, constater que l'état de droit fonctionne en Espagne, qu'il est solide et que les Espagnols n'ont pas de leçons à recevoir sur ce plan-là. Je pense que de ce point de vue-là, c'est aussi une tribune pour... Je dirais le système constitutionnel espagnol. C'est une tribune à bien des égards, on va dire.
Et alors, sans présumer de la conclusion, quel effet pourrait avoir ce procès sur le corps politique catalan? Je rappelle qu'il y a 12 prévenus, mais pas certains des principaux protagonistes, dont l'ancien président de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui est toujours en fuite, ce qui lui a été reproché par Oriol Junqueras, lui qui se comparait dans le Figaro à Socrate ou Cicéron.
Alors encore une fois, je radote un petit peu, mais je tiens toujours à dire qu'il ne s'agit pas des Catalans. La moitié des Catalans ne votent pas séparatistes. Je pense que c'est quand même extrêmement important parce que c'est là le problème. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un procès aujourd'hui. C'est que ce Parlement a voté une déclaration d'indépendance unilatérale alors qu'il y avait 47% des électeurs qui avaient voté pour des députés qui avaient une majorité du fait aussi d'un système électoral qui leur donne quelques députés de plus. Voilà. Donc du coup, si vous voulez, c'est important parce qu'on est dans quelque chose dans lequel la représentation du peuple catalan qui est défendue devant ce tribunal et face à ce tribunal, c'est un système de droit au sein d'une constitution qui est également défendue. Donc le résultat, j'en sais rien, il va dépendre beaucoup, je pense, de décisions qui sont pas encore prises au sein de l'indépendantisme catalan. Les indépendantistes catalans ne sont pas tous unis pour l'instant. Ils ont des problèmes entre eux parce que justement Puigdemont qui est en Belgique aimerait bien revenir d'une certaine manière. Et donc il a tendance à être un petit peu radical dans ses réclamations. Et donc Torra, l'actuel président de la Generalitat qui le représente, va dans ce sens-là, alors que le parti Esquerra Republicana de Catalunya est dirigé par Oriol Junqueras, qui lui-même est en prison, préférerait que Junqueras ne prenne pas 25 ans de prison et donc ils ont rabaissé leurs exigences. Mais le procès peut aussi les rassembler. Donc en fait, déjà ça, du point de vue de ce que c'est que le séparatisme catalan, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas non plus si les antisystèmes d'extrême gauche vont décider que finalement il faut faire une pression dans la rue et qu'il y ait des désordres dans la rue. On ne sait pas non plus. Donc c'est beaucoup de décisions qui vont être prises. Et par ailleurs, il y a aujourd'hui un parti de nationalistes espagnols qui s'appelle Vox, qui a pris beaucoup d'importance, qui est parti civil dans le procès, qui se présente au mois de mai en Catalogne et qui va donc utiliser également ce procès comme une tribune politique pour avoir un très bon résultat en Catalogne puisqu'ils ont eu un résultat inattendu aux dernières élections en Andalousie. Donc si vous voulez, ça peut changer les choses pour beaucoup de gens. Donc je pense qu'il vaut mieux pas trop faire de plans sur la comète. De toute façon, ça va entraîner des bouleversements. On ne sait pas à quel point, quel type de bouleversement ça entraînera à long terme. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui peut être prévu à long terme pour l'instant pour l'Espagne.
Pour revenir à Pedro Sanchez et ses rapports avec l'exécutif de Barcelone ou catalan, lui qui avait justement mené un processus d'ouverture, qui voulait, comme il le disait, normaliser les relations institutionnelles, qui avait largement augmenté le budget de l'exécutif, 2 milliards d'euros, est-ce que ça ne va pas rendre caduque ce processus?
Alors le choix aussi du terme processus de normalisation, il est loin d'être anodin, puisque en fait une bonne partie de l'opinion espagnole pense qu'on est dans une situation totalement anormal et que ce que fait Pedro Sanchez, c'est radicalement anormal, puisque avant de prendre le pouvoir, il disait que Torra, donc l'actuel président de la Generalitat, avait des positions racistes et que ses revendications étaient anticonstitutionnelles et que pour avoir obtenu le pouvoir et donc le vote des indépendantistes catalans au Parlement espagnol, il a fait un demi-tour complet et il a négocier des accords, on va dire, qui semblent totalement anormaux à une grande partie de l'opinion espagnole. Donc, si vous voulez, il y a un parti socialiste qui essaye de se maintenir au pouvoir, donc de faire des concessions plus qu'un retour à la normale. On est là quand même dans un processus de concession à des alliés politiques. Et le paradoxe, c'est que ces alliés souhaite la destruction de l'État espagnol tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est effectivement une situation quand même très paradoxale. C'est pour ça que quoi qu'on en pense, elle n'est pas exactement normale. Elle est surprenante, étonnante. On aurait du mal à imaginer une telle situation en France.
Et effectivement, avec un parti socialiste, Pedro Sanchez, arrivé au pouvoir sur motion de censure, destitution de Rajoy l'année dernière, lui-même minoritaire, je crois, avec 84 sièges seulement sur 350 au Parlement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la marge de manœuvre de Pedro Sanchez, comme vous l'avez dit, qui doit faire un certain nombre de concessions à ses alliés, y compris la Podemos à gauche, est extrêmement limitée, notamment pour faire voter ce budget aujourd'hui, par exemple?
Elle est très limitée, depuis le début elle est très limitée, mais il est vrai qu'on peut aussi reporter le budget existant. Il n'est pas impossible de gouverner sans avoir pu faire voter un budget, ce qui serait un peu un paradoxe, puisque c'est un budget qui avait été élaboré par la droite.
Voilà.
Donc on serait de nouveau dans une situation paradoxale et dans laquelle je pense que le mot normal, là, il ne convient pas. Quel que soit... Encore une fois, les opinions qu'on peut avoir, rien n'est normal pour l'instant en Espagne, c'est-à-dire tout est étrange et paradoxal. Tout est le simple fait, encore une fois, qu'un président de gouvernement dépende d'un parti ouvertement séparatiste, c'est franchement pas logique.
Et alors, est-ce qu'une des solutions possibles, comme l'avait déjà évoqué la semaine dernière la droite, ce serait encore une fois de nouvelles élections anticipées après celles de 2016, relancer les dés une nouvelle fois?
C'est ce que réclame aujourd'hui évidemment une grande partie de l'opposition, donc de Ciudadanos au centre, Parti Populaire à droite et Vox maintenant à l'extrême droite. Le Parti Socialiste est traversé aussi de courants contradictoires. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient retourner aux élections, mais Pedro Sanchez pense que plus il va durer, mieux ça sera, et peut-être mieux ça sera pour son parti. Il est vraisemblable aussi qu'il y ait un certain nombre de socialistes qui se disent que c'est pas le moment de revenir aux élections parce qu'ils vont pas tout de suite les gagner. Il se trouve qu'ils viennent de perdre les élections en Andalousie. Donc repartir aux élections sur une défaite, d'un point de vue tactique, la situation elle est simple pour personne. Et elle n'est pas simple non plus pour le Parti Socialiste, sachant qu'ils veulent aussi gagner les élections à Barcelone. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de nationalistes qui reconquièrent la mairie de Barcelone.
En mai prochain,
ça serait très important. Donc la situation est particulièrement complexe en Catalogne elle-même, puisque c'est Manuel Valls qui se situe entre Ciudadanos et le Parti Socialiste catalan, donc dans une sorte d'entre-deux un peu particulier, tactique. Et c'est particulier parce que voilà, le procès, il a une ampleur sur les temps longs de l'histoire. Enfin, il a un impact sur les temps longs de l'histoire de l'Espagne. Et en fait, il est associé à des tactiques sur des temps très courts. Et c'est ça qui rend les choses difficiles à décrypter.
Eh bien, à suivre aujourd'hui pour le procès et puis jusqu'aux élections en mai. Merci beaucoup, Barbara Loyer, et bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Portez un masque dès l'apparition des premiers symptômes. Éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. Évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Et à 6h57 sur France Culture, n'ayez pas peur et laissez-vous aller avec
les
matins.
On n'a pas la grippe, hein.
Ah non, pas encore, mais peut-être. Avec les matins et vous, Guillaume Erner.
Et oui, bonjour Xavier, bonjour à tous.
En tout cas, maintenant, c'est au tour de l'Express.
Oui, l'Express, le news magazine, pionnier des news magazines. Eh bien, c'est à son tour de connaître un plan de relance, hein, comme on dit pudiquement dans les médias. Souvent, c'est un plan de relance dans le mur. Alors, je vous passe les détails. On va dire que, pour faire court, l'Express change de main. 51% des parts passent entre les mains d'Alain Veil, fondateur de Next Radio, autrement dit notamment de BFM TV. Bon, jusqu'ici, pourquoi pas. Mais les projets d'Alain Veil, tels que les raconte le Figaro d'aujourd'hui, passent par le départ de 30 à 40 journalistes sur 110, soit près d'un tiers des journalistes, un tiers de journalistes en moins pour faire le magazine. L'Express sera donc plus mince, mais alors plus dense, hein, annonce le nouveau patron. Avec ce nouveau mot d'ordre, on ne peut pas tout traiter. Ce qui, en langage patronal, veut dire « ça sent le sapin ». Alors, c'est cela, un plan de relance dans les médias. Le seul secteur où l'on croit que « less is more », moins c'est plus, le « less is more » aurait un avenir. On va vous en offrir moins et vous nous achèterez plus. Tout cela pour tirer deux conclusions. Alors attention, la première est corporatiste. Journaliste est aujourd'hui une profession sinistrée, absolument sinistrée. S'en prendre aux journalistes parce qu'ils incarnent le système, c'est à peu près aussi malin que de considérer que les vidéoclubs représentent la nouvelle économie. Le nombre de cartes de presse ne cesse de chuter et les jeunes journalistes sont des précaires, sous-payés. Si on veut vraiment puiser un qualificatif chez Nizan pour évoquer les journalistes, alors les jeunes journalistes en tout cas ne sont pas des chiens de garde mais des intellectuels prolétaroïdes. Et puis la seconde conclusion, un jour ou l'autre, il faudra bien que l'on se demande si cette insatisfaction vis-à-vis des médias n'est tout simplement pas corrélée à la paupérisation des médias. Si les journaux se vendent et se revendent à Alain Veil, à Kretinsky, à qui vous voudrez, c'est parce que les Français ne les achètent plus. On a fini par accréditer l'idée selon laquelle l'information devait être gratuite, ce qui est une excellente nouvelle pour tous les oligarques qui ont décidé de se les offrir. Car ne l'oublions pas, en matière d'information comme du reste, ce qui est gratuit ne vaut absolument rien.